Histoire du christianisme en France. Jean-Yves Delors et Michel Fauquier.
Bonjour Michel Fauquier.
Bonjour Monsieur Delors.
La christianisation en Gaule et en France, comment s'est-elle faite? Je veux dire, il y avait des statues païennes, sûrement, il y avait des divinités gauloises, des divinités barbares, il y avait des lieux païens sacrés, les rivières, les tumulus, les montagnes, il y avait beaucoup de superstitions. Comment l'Église a-t-elle christianisé ses habitudes?
Eh bien, en fait, nous avons été longtemps trompés par nos sources. Parmi les miracles prototypiques que l'on attribue aux saints, il y a ceux d'avoir combattu avec une très grande véhémence les païens, les divinités païennes.
Ah ben on met le feu carrément.
Ah voilà, c'est ça. Or, lorsque l'on étudie les choses de près, on s'aperçoit, la chose est très connue avec saint Martin, mais on a le cas de saint Gall de Clermont, qui est un parent de Grégoire de Tours, dont nous avons déjà parlé, rédacteur donc du livre d'histoire dit autrefois Histoire des Francs. Donc on a pas mal de choses sur les 4e, 5e et 6e siècles. Mais quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit qu'en fait, il ne s'agit plus que de survivance.
Ah oui.
C'est-à-dire la fameuse affaire du pain sacré que saint Martin va littéralement défier. C'est-à-dire en gros, il tombe un jour dans les campagnes sur des gens qui sont en train de rendre un culte à un sapin. En période de veille de Noël, c'est des choses qui ont l'air encore d'agiter, y compris jusqu'au milieu politique. Donc vous voyez, il faut faire attention avec les sapins. Eh bien, il s'insurge contre ces pratiques, le ton monte, on va en venir aux mains, et les païens lui proposent un marché très simple. Il dit, voilà, on va t'attacher dans la zone de chute du sapin, et on va le couper. Ce qui est d'ailleurs un pari assez stupide, parce que si l'arbre est sacré, il ne devrait pas le couper. Mais... Donc l'idée, c'est que le dieu païen va se venger en tuant Saint-Martin. Or, la vie de Saint-Martin dit que l'arbre commence à tomber en direction de Saint-Martin, et tout d'un coup, repart en arrière et s'abat sur les païens. Or, cette scène est assez intéressante, parce qu'elle ne décrit à aucun moment un sanctuaire. Et donc, en fait, ce sont des gens qui en sont réduits à se réunir dans les bois, pour maintenir un culte qui paraît extrêmement élémentaire, on ne sait même pas trop à qui il pouvait être destiné. Et tout ce que nous avons comme notation à propos du paganisme dans ces 4e, 5e et 6e siècles nous décrit une situation du même type. Les temples sont totalement abandonnés, ils s'écroulent. Plus personne ou pratiquement plus personne ne les fréquente, sinon des gens assez marginaux qui sont très peu nombreux. Mais, parce qu'il faut bien expliquer l'importance qu'ils ont dans les vies de saints. Il appartient aux rédacteurs de ces vies de saints de montrer que ceci a été le résultat du travail de ces évangélisateurs zélés et spectaculaires qu'ont été les saints. Et ils vont donc insister à dessein sur des choses qui étaient en fait de l'ordre de la subsistance.
Ouais.
On ne rencontre aucune forme de paganisme organisé dans les limites de l'ancien empire romain à l'époque, mais des survivances que plus tard on attachera plus ou moins à la sorcellerie ou à des pratiques un peu spiritualistes ou ce genre de choses, qui ne prend plus du tout la forme d'un culte organisé avec
des ministres,
des ministres du culte, une liturgie, ça on ne le voit vraiment plus.
D'accord. Mais on a parfois dit que l'Église avait christianisé un certain nombre de pratiques concernant des rivières, des montagnes. C'est là que se produisent des événements un peu...
Oui, tout à fait. Et alors la christianisation la plus efficace de ceci, c'est l'intervention d'un saint qui va, à partir de ce moment-là, changer, on pourrait dire, la polarité d'un objet, d'un lieu. On a le cas de saint Césaire d'Arles, qui est assez intéressant. Il se promène, c'est un évêque pasteur extrêmement ardent. Il visite véritablement la totalité de ses possessions. Or, c'est une métropole, hein, c'est pas juste la ville d'Arles,
oui,
hein, c'est une province ecclésiastique qui est assez grande, qu'il connaît dans le moindre détail. Or, il croise régulièrement des païens, des bâtiments païens, et systématiquement, à ce moment-là, il y a des manifestations qui sont interprétées, certainement à juste raison d'ailleurs, comme des manifestations diaboliques, en ce sens qu'elles s'opposent au christianisme et à sa progression. et elle donne lieu à des miracles du saint qui vont donc changer la polarité de l'objet et du lieu qui, à partir de ce moment-là, est attaché à la mémoire du saint. Alors après, que se passe-t-il dans la tête des gens qui pèlerinent à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a un reste d'attachement à un lieu dont ils ont perdu d'ailleurs l'origine du sens? Ou un attachement plus lié à Saint-Césaire d'Arles? Est-ce que le clergé joue habilement de cette confusion? Là, c'est difficile à dire. Mais à vrai dire, comme nous le disions en commençant, à cette époque-là, en tout cas, le clergé catholique n'a plus grand-chose à combattre. Des survivances, si vous voulez, mais pas très importantes.
Et alors, on voit bien le christianisme démarrer dans certaines grandes villes, mais en campagne, il y a eu des paroisses rurales assez rapidement faites.
Alors, vous avez raison de faire la distinction. Il est clair qu'on est dans une civilisation romaine, et le clergé lui-même s'est calqué sur les structures de l'Empire romain. Et sans surprise, les évêques s'installent dans les villes. Et d'ailleurs, on fait une confusion entre ce qu'on appellera beaucoup plus tard le diocèse, parce qu'à l'époque, le diocèse, c'est une subdivision administrative romaine.
Oui.
Mais on réutilisera le terme. Donc le diocèse, on va dire les paroisses, là encore, et ce qu'on appelle la cité et la ville. On fait une jolie confusion de ça. Normalement, une cité, ce n'est pas un espace, c'est un ensemble de citoyens. Une ville, par contre, c'est du bâti. On fait un mélange de tout ça. Donc la ville, la cité, le diocèse semblent se concentrer dans l'espace urbain à ce moment-là. Et effectivement, la campagne paraît un peu plus abandonnée. Mais deux personnages, on pourra en parler après si vous voulez, vont avoir un rôle très important dedans, c'est Saint-Martin et Saint-Césaire d'Arles.
D'accord. Merci beaucoup, Michel Fauquier.